Et ben voilà, un autre angle mort le 14 août. Salut tout le monde! Merci pour les suggestions hier de Denis. J'ai eu toutes sortes de suggestions. Martin, concernant mon podcast sur la monétisation éventuelle, sur telle affaire. C'était pas nécessairement des idées, mais c'était des commentaires sur votre façon de consommer ça, etc. Ça fait que c'est bien intéressant. Un petit mot sur ce soir, j'ai eu une vision extrêmement claire qui, dans le fond, rejoint la vision que j'avais dans le temps. C'est juste comme un ancien projet que j'étais en train de réallumer. Puis ça démontre qu'à un moment donné, il faut se mouiller dans le concret pour que les affaires arrivent. C'est que le show de ce soir, il n'est même pas fait encore, mais je sais où je veux aller avec, plus que jamais. C'est-à-dire que je veux que ça fasse un talk show. Moi, ce soir, je suis tout seul, mais il y a des gens dans le public qui vont monter, etc., parce que c'est très ligne ouverte. Mais éventuellement, ce que je veux, c'est un talk show. Puis c'est une vieille idée que j'avais eue, dans le fond, puis je sais pas pourquoi. Carrément, cette nuit ou ce matin, je ne sais pas trop, je me suis réveillé en pensant à ça. C'est un talk show avec un politicien, avec un humoriste, puis une consultation homme-femme à la fin comme dessert. Comme je faisais dans le temps, puis que si ça donne à soir, ça va être la même affaire. Ça fait que c'est ça, dans le fond, que je veux monter. Ça fait que le prochain Chef Boilardi live, ça va être un talk show, dans le fond, qui est un talk show, mais pas juste avec des vedettes, entre guillemets, comprenez-vous? C'est un talk show où il y a du monsieur, madame, tout le monde qui vont venir. Puis j'ai cette idée-là depuis longtemps, puis c'est bizarre. C'est comme si à l'instinct, j'amène ça à droite, à gauche pour finir là. Puis c'est peut-être aussi qu'avant, ben, ça prenait la permission d'un télédiffuseur, puis que maintenant, ben, avec peu de moyens, là, on parle pas de parler dans son téléphone, là, évidemment. Puis je veux jouer devant public, parce que s'il y a du public, la réaction est vraiment plus haute que quand tu fais juste. Fait que tu sais, c'est un genre d'hybride de tout. De podcast, puis de talk show, puis... Puis ça, c'est les affaires hybrides, ça me ressemble. Tu sais, les affaires, le mélange des genres, puis tout ça, ça fait que c'est ça. Ça fait que ce soir, c'est une brique dans cette espèce de construction-là que je veux faire. Donc, mélanger les activités que j'ai déjà, les podcasts que j'ai déjà, mais tout concentrer ça une fois par mois à Québec et à Montréal, ça serait vraiment hot, sérieux, ça serait vraiment hot. Aujourd'hui, je vous parle d'une phrase de Nathalie Elgrabli-Lévy que je trouvais particulièrement allumée à l'époque, puis que maintenant, je vois son jupon dépasse, c'est épouvantable. Puis je trouve ça très, très... Ça frôle le inintéressant. Alors, elle a dit qu'elle pense que Donald Trump va être réélu parce que Joe Biden, zéro, puis telle affaire. Donc, c'est une de ces nombreuses Trumpistes déguisées. Puis je dis déguisé parce qu'elle finit en disant « S'il fallait parier, il serait logique de miser sur la réélection de Trump. » Mais dans la vraie vie, elle le souhaite, là, c'est clair. Alors, elle dit une affaire, que c'est pour ça que je veux vous dire ce que je pense de ça. « Certes, la pandémie, le chaos social et la crise économique pourraient coûter des votes à Trump. » Ce qui est très drôle, c'est que cette lecture-là des choses, qui est très vraie, passe à côté du fait que c'est 100% de sa faute. Alors, c'est pas la faute de Donald Trump si le virus existe, mais sa gestion slack, son côté très comme le président du Brésil, Bolsonaro, de dire que c'est pas grave, puis c'est une grippe, puis cette espèce de mépris-là de l'expertise qui est associée à l'élite, qui est associée aux démocrates, etc. Donc, très populiste au pur sens du terme. Bien, ça fait en sorte que les gens qui sont pro-Trump ne se rendent pas compte à quel point ce gars-là, en 2 ans, là, c'est sa troisième et quelques années, mais ça a pris 2 ans, quand tu regardes ça, pour ce qui scrappe les États-Unis. Puis, il les scrappait pas tant que ça au plan économique, parce qu'à quelque part, ça roulait. Mais en même temps, ça roulait-tu à cause de lui? C'est ça qui est fascinant quand on parle politique et économie. C'est jamais des E égale MC2. Mais 2 ans plus tard, il a scrappé les États-Unis sur le plan économique et sur le plan social. Parce que sur le plan social, il a validé... les racistes qui sont, d'après moi, à la base de ce pays-là. Ce pays-là a été monté sur le dos de l'esclavagisme. Si vous vous partez en affaires puis que vous avez de la main-d'œuvre gratuite, vous avez un avantage concurrentiel hallucinant, qui est complètement disproportionné, qui d'ailleurs ne peut pas se faire dans le cadre normal, même à l'époque. Aujourd'hui, cet avantage-là, rappelez-vous, je vous en ai parlé, ça s'appelle « Tinder contre mon classeur ». Tinder arrive ici, puis je dis mon classeur, réseau contact, tout ça, et puis détruit tout le monde. Pourquoi? Pas parce que c'est hot, parce que c'est gratuit. Ça fait que c'est pas normal, ça, dans l'histoire du capitalisme, d'avoir une compagnie qui a du financement sans fonds en se disant « continue, c'est pas grave, Puis quand tout le monde sera mort, il va rester toi. Ça, à quelque part, ça s'est vraiment jamais vu, sauf quand tu partais en guerre. Bon, mais ce qui s'est jamais vu non plus, c'est l'esclavagisme qui est de la main-d'œuvre gratuite. Le pays a été fondé là-dessus, le pays a été divisé là-dessus. La guerre de sécession. Il n'y a pas mille interprétations, là. Puis je crois, là je tombe dans une théorie, que les États-Unis sont tout le temps restés avec cette espèce de combat-là. À la rigueur, c'est quasiment mathématique, hein? C'est géographique. Le pays est trop grand puis trop varié pour être un seul pays. Mais il y avait un équilibre pareil qui se faisait, représenté par une culture politique bipartite, c'est-à-dire il y a toujours eu que les républicains et que les démocrates aux États-Unis. Il n'y a pas comme ici, tout à coup, un Québec solidaire qui pop ou un NPD ou autre. Ça a tout le temps été, c'est A ou B. Alors, ils s'en présentent d'autres, mais ils sont purement anecdotiques. Ça fait que le monde qui dit que Donald Trump n'a pas divisé les États-Unis, il l'était déjà, ils ont entièrement raison. J'ai déjà dit ça, je le pense encore. C'est-à-dire, je le pensais. Je parlais de ça avec Eric dans le temps. Puis lui aussi, il était d'accord avec ça. De dire que, je veux dire, il y a une division épouvantable, sauf que monsieur, madame, tout le monde, dans le centre, là, le vrai, l'Américain avec son gun, n'était pas très représenté. Et tout à coup, Trump arrive, puis à quelque part, il donne le droit aux gens qui sont racistes de l'être. Une version un peu sévère, là, mais il y a un fond de vérité dans ce que je vous dis. Je vais vous donner un exemple. Il y a bien des familles qui, pour ne pas dire toutes les familles, qui s'entendent très bien, c'est l'exemple chez nous, où tout va bien, tu t'entends bien, etc., mais en même temps, tu fais attention un peu parce que ça reste que tes frères et sœurs, ben tu les vois pas tant que ça, puis tu partages pas nécessairement les mêmes idées sur tout, etc. Puis c'est absolument pas grave, mais la bonne entente règne, etc. Et un jour, ta sœur, mettons, c'est pas le cas de la mienne, là, mais mettons, ta sœur se fait un chum, puis personne s'entend avec, c'est un gazé. Mais elle, elle l'aime, moi je l'aime. Et un réveillon, ça pète. Là, ça pète. C'est-à-dire que là, tout à coup, ton père ou bien toi-même, là, tu fais comme elle, là, ça va faire, tu te pognes avec. Qu'est-ce qui arrive, tu penses? Évidemment, ta sœur défend son chum. Et là, il y a une chicane de famille qui s'installe. Paf! La plupart des gens à qui je parle au moment là ont, si ce n'est pas votre cas personnel, vous avez du monde que vous connaissez à qui c'est arrivé. Donc, on n'est pas obligé de mettre sur la faute du beau-frère niaiseux la division. C'est une division qui existait. Parfait. Je pense que c'est le cas des États-Unis. Mon parallèle s'applique totalement. Mais il reste qu'il y avait un équilibre. Il y avait un équilibre. Il y avait, à un moment donné, un réveillon où est-ce que c'était ta sœur qui était plus en vedette, puis qui trippait plus, puis qui avait eu une plus belle soirée, puis toi, ben ça filait moins. Puis là, tout à coup, il y avait des arguments, mais finalement, c'était correct et tout, puis tout. Mais ça se tenait. Ça s'appelle la diplomatie, ça s'appelle les relations humaines. Nos amis, c'est des gens avec qui on a très, très haut degré de confort, mais il faut vivre en société. On a des collègues de travail, on a... Alors, c'est facile, à quelque part, pour un individu d'arriver là-dessus, puis de faire en sorte que ça pète. Tu peux être un agent de trouble dans ce temps-là, puis tu peux être un agent scellant. Tu peux être quelqu'un qui est un liant, là, comme on dit. Bien, que vous le vouliez ou non, Trump est arrivé, puis il a exacerbé la division américaine. Donc, il ne l'a pas créé, mais il l'a mis à fleur de peau. Fait que ça, c'est une chose qu'il avait déjà faite. Et après ça, son approche de la pandémie comme si c'était « Ah, oh, c'est pas grave », etc., ben quand tu luttes contre un virus, le début est extrêmement garant de la suite. Ceux qui sont intervenus plus vite ont réussi à faire baisser la courbe. Et puis aujourd'hui, on se ramasse au Québec avec la courbe de chialage, elle a monté. Mais la réalité, c'est que le virus est éminemment contenu. C'est rendu maintenant que le combat, c'est à se demander est-ce qu'il faut être aussi sévère avec la gestion du virus qu'on le fait? Parce que ça a beaucoup de dommages auprès, par exemple, des enfants, de façon alléguée du moins, là, avec les masques, etc. Puis au niveau du commerce, ça, c'est indéniable. Fait qu'il est rendu là notre débat, nous autres. Mais quand même, on n'est pas en train de voir des chiffres monter. Aux États-Unis, là, on ne sait plus quand est-ce que ça va arrêter, là. Ça fait que ça a été pris à la légère avec les résultats qu'on connaît. Zéro. Et c'est drôle parce que ça a été pris à la légère avec un... Et ça a scrappé l'économie. Les gens qui donnent le modèle suédois tout le temps, le modèle suédois, il a été suivi. Le modèle suédois, il n'y a pas eu d'obligation autant qu'ici. Mais les Suédois, dans leur culture, c'est des gens qui écoutent leur gouvernement. Les Suédois, les Allemands, la Corée du Sud, puis le Vietnam ont été très peu touchés. Pas très peu nécessairement en termes de chiffres, mais en termes d'impact. Et puis, c'est des places, ironiquement, où les gens, contrairement ici, où il y a une frange très anti-gouvernement, là-bas, la frange anti-gouvernement est beaucoup moindre. En Suède, les gens, leur gouvernement, ils leur accordent de facto une grande confiance. Ça fait que quand ils vous disent « on pense que vous devriez », ils le font. Ben voilà. Aux États-Unis, manifestement, c'est pas ça. Ça fait que Donald Trump, en très peu de temps, a scrappé ce pays-là, tant qu'à moi, vraiment. C'est récupérable? Peut-être, je sais pas, on verra. Mais quand je vois une phrase de même dans le journal d'une fille qui, manifestement, est à droite toute puis qui essaie de faire comme si c'était pas tant le cas, puis qui travaille à l'envers, j'appelle, là, c'est-à-dire qui commence par son idéologie puis qui fait rentrer à crowbar tout, ben elle a tendance à trouver que Donald Trump, c'est encore l'homme de l'heure. Ça me fait complètement halluciner. Ça c'est pas une cruche, là. Puis c'est assez capoté. Alors, voilà. Donc, j'ai essayé de vous résumer aussi ma théorie par rapport à ça, là, puis ça faisait un bout de temps que je mûrissais ça. Fait que moi, j'étais pas anti-Trump au début. J'avais aucune intention. Si j'avais voté, j'aurais jamais voté pour lui. Les gens qui sont sa base, j'ai un profond mépris pour ces gens-là. Puis ça m'intéresse pas. Mais il reste que... j'étais pas anti-Trump, je me disais, même si sa gouvernance est complètement zéro, très chaotique, puis que lui, c'est un personnage que je trouve vraiment vulgaire et inintéressant, il permet quand même à une espèce de côté des États-Unis de rayonner, puis sa politique agressive du « America first », à tort ou à raison, c'est pas imbécile. Ça se peut que les États-Unis ont eu, à travers cette espèce de propension-là, à toujours vouloir être le policier du monde. Quand ils interviennent, on dit « vous êtes un peuple guerrier ». Quand ils interviennent pas, on dit « on sait bien, les États-Unis, s'il n'y a pas d'intérêt, vous y allez pas ». Tu sais, fait que je trouvais que ça se pouvait d'avoir une politique internationale puis une politique locale. Je pense encore que ça se peut. Moi, je suis pas un mondialiste effréné qui dit « coupons les frontières », pas en tout. Ça fait que Trump incarnait ça de façon un peu foncée, mais je pense que ça, il y a quelque part, ça réussissait. Puis c'était comme un pays qui se dit, on n'est plus obligé de tout le temps être en train d'envoyer des chèques. Puis c'est... Et là, après, quand la pandémie est arrivée, là, je pense qu'on a vu le gars, il joue au-dessus de sa tête totalement. D'ailleurs, c'est l'autre discussion qu'il faudrait avoir. Tu sais, on dit des fois, les politiciens, ils font ça, là. C'est des politiciens de carrière. Il y a peut-être une raison aussi, là. Il y a peut-être une raison, tu sais, c'est drôle. C'est comme, il y a personne qui s'improviserait plombier, mais à entendre parler de la frange à gauche, là, tout le monde peut s'en aller en politique. C'est intéressant d'aller en politique. Moi, j'arrive, il y a un Français qui se présente depuis quelques années, depuis quelques élections en France, qui s'appelle Poutou. Puis lui, il travaille à l'usine de Ford, puis il dit, moi, j'ai le droit, puis t'as la fin. Moi, j'ai rien contre sa façon de voir qui est très extrême gauche, puis qui est très vraiment, puis sa critique du capitalisme, c'est valide. Puis le gars en soi, qu'il soit un ouvrier chez Ford ou un architecte, à la base, je me dis pas oui, non, peut-être, là. C'est pas ça l'affaire, c'est quand il va arriver au pouvoir, le monde pense que c'est juste d'avoir des idées, d'être élu, puis après ça, c'est rigolo. Hey, il y a tout le quotidien, comme n'importe quel job, là. Il y a des meetings, savoir faire des meetings, c'est quel genre de gars que t'es avec ton staff, comment tu fais pour que tes idées arrivent à travers la fonction publique, les fonctionnaires. Ils sont drôles, eux autres, de penser... C'est ça le problème avec Québec solidaire. Québec solidaire, leur problème, c'est que les gens, sans nécessairement le formuler, ils se disent pas « je suis pour ou contre leurs idées seulement », c'est qu'ils se disent « s'ils sont au pouvoir, ils arrivent de où, eux autres, pour dire qu'ils vont mener un ministère comme du monde, etc. » C'est pas pour rien que les gens en politique sont souvent plus vieux que plus jeunes. Yes. À tort ou à raison, mais monsieur, madame, tout le monde a le droit de se dire « coudonc, c'est qui ce gars-là qui a 27 ans puis qui va venir me dire « hey, on va faire ça de même ». Même Mario Dumont, dans le temps qu'il était très jeune, on le trouvait hot, mais il aurait-tu fait la job? Aujourd'hui, avec de l'expérience en politique, de l'expérience en médias, on l'écoute parler, puis si on est d'accord avec l'ensemble de ses idées qui sont plus à droite, bien, on trouve que le gars, s'il retournait en politique, il serait élu, puis je pense que c'est vrai, puis pour des bonnes raisons. Bien, il y a un bagage qui s'est accumulé depuis ce temps-là. Mais à l'époque, là, c'était un jeune à l'Assemblée nationale, puis... Ça valait ce que ça valait dans la vraie vie, là, comprenez-vous? Fait qu'en tout cas, moi, Trump, franchement, j'ai décroché complètement. J'ai de la misère à continuer de voir que quelqu'un qui analyse froidement la politique voterait pour lui pareil. Quelqu'un qui se dit, c'est quoi avoir le président des États-Unis le mieux placé pour la situation actuelle? Actuelle, en voulant dire, en général, là, tu sais. Comment on fait pour dire, ouais, je pense que mon choix, c'est Donald Trump? Ça me fait un peu halluciner. C'est que si c'est pas une haine viscérale des démocrates, qui me fait aussi halluciner, moi, j'ai aucune haine des républicains. Zéro. Ronald Reagan, Bush, senior, je trouve, a très bien fait dans ces années. À cause du 11 septembre, évidemment, on peut critiquer très sévèrement et à raison, probablement, George Bush Jr. Mais tu sais, c'était pas Satan sur Terre, c'était pas... Je trouve que cet équilibre-là aux États-Unis entre les républicains et les démocrates, la droite, la gauche, qui est ni l'extrême droite ni l'extrême gauche, je trouve au contraire, ça se tient, mais il est venu te scraper ça bien comme faut. Puis je suis désolé. C'est pas vrai que c'est comme, ah, le pays était déjà divisé, comme j'ai moi-même pensé. Oui, il était déjà divisé, mais rappelez-vous la théorie du beau-frère. Désolé, on est des êtres humains, on n'est pas juste des robots qui ont des fonctions. Puis c'est ça. Aujourd'hui, c'est scrap. Ça fait que de voir une fille dans le journal qui est économiste, qui est prof au HEC, puis qui regarde ça comme si c'était pas tant de sa faute, hein? Ah, les conditions autour de lui fait qu'on le juge sévèrement. Mais arrêtez! Arrêtez! Il a créé le bordel totalement. En tout cas. Petite mention sur l'article aussi dans le journal de Montréal, qui s'appelle T'es passé où, Montréal, de Geneviève Peterson, puis qui nous ressort la millième chronique comme quoi c'est invivable d'être à Montréal, de la construction, etc. Là, sérieux, tu sais. Quand vous faites des rénovations, vous autres, dans la cuisine, là, trouvez-vous que c'est plate, qu'il y ait de la poussière partout, du plastique, que vos armoires soient éventrées. Vous trouvez ça plate, hein? M'en parleriez-vous tous les jours? Hey, maudit que je trouve ça plate. Là, je suis en train de faire des rénovations. Puis là, je rentre des rénovations. Ouais, OK, ben oui. C'est comme si tu me disais à météo. Hey, aujourd'hui, il fait 26. Quand vous rénovez, ça vient avec des troubles. C'est plate. Des rénovations, c'est du trouble. Est-ce que vous vous empêchez de rénover à cause du trouble? La réponse, c'est non. Quand vous dites, là, OK, on refait le sous-sol, on refait la salle de bain. Vous savez que ça ne sera pas genre on cligne des yeux puis c'est réglé. Ben non. Là, Montréal se rénove. Est-ce qu'il se rénove de la meilleure façon possible? Je ne sais pas. Mais ce qui me fait ultra rire, c'est que j'entendais à outrance au mois de mars, « Hey, j'espère que la ville va se déniaiser. C'est le temps, là. Il n'y a pas de trafic. Ce serait le temps, là, de faire des travaux. » C'est que là, il y a des travaux partout. Il n'y a effectivement pas de trafic parce que même s'il n'y avait pas de travaux, personne ne veut travailler dans les tours dans le centre-ville encore. Puis encore un article pour nous dire, en tout cas, Montréal, ça circule mal, hein? Ah, c'est épouvantable. Sérieux, ça me fait halluciner. Je veux dire, ouais, effectivement, ça a l'air qu'on refait des routes. Puis Sainte-Catherine, on a fait un beau projet pour faire de la rue Sainte-Catherine un endroit qui va être super hot. Puis là, moi, je reste juste à côté, c'est que je le vois comment ça va être super hot. Ben, savez-vous quoi? Il faut éventrer la rue, puis il faut qu'il y ait des camions, puis il faut mettre des grilles, puis le monde, il faut qu'il tourne à gauche au lieu de la droite, puis... C'est quoi, là? Est-ce que c'est parfaitement géré? Vous êtes qui, vous autres, les grands urbanistes, là, puis les ingénieurs civils, pour me dire, ah, c'est pas de même qu'il faut faire ça, puis telle affaire. Moi, j'en ai pas la moindre idée. J'ai juste qu'à un moment donné, faut refaire des aqueducs, il faut refaire des rues. Là, on vous parle pas des one-way à Ferrandez, là. C'est pas des choix. Là, on vous parle de choses qui doivent être faites, ou des projets pour remettre des rues, des artères principales hautes. Puis le monde se plaint, ah oui, mais là, pendant ce temps-là, c'est parce que, ben oui, pendant ce temps-là, comme toi quand tu refais ta salle de bain. Pendant ce temps-là, c'est plate. Ça me fait capoter. C'est comme, je trouve ça plate, oui, oui, mais comme quand il pleut, je trouve ça plate. Ah, ben là, quand ça, il pleut. C'est à quoi les choix? C'est de laisser ça aller jusqu'à temps que les tuyaux pètent? La ville se rénove. Blâmez donc ceux qui ne l'ont pas fait dans le temps. Ça a plus de chances d'être logique. C'est quand même un peu capoté. Bref, je l'ai juste souligné ça parce que, voilà, la fille, habituellement, je la trouve très pertinente, mais j'en viens pas d'en rajouter une couche. T'es pas con. Moi non plus, je suis pas content que je me promène à Montréal. Même en Bixi, c'est raide. Moi, et puis, je veux dire, on peut-tu monter d'un étage, là, s'il vous plaît? Bref, sur ce sera, j'espère, une soirée à la hauteur. Je vais vous en parler lundi. Et puis, si vous y êtes, ben au plaisir. Et après ça, de toute façon, on va tous aller au breuvage dans le Bourgneuf. Et voilà! Bonne journée tout le monde. Bon week-end.